Nous avons donc commencé par le procureur et je passe la parole à la défense. Alors, il y en a deux, mais on reste dans l'ordre prévu, donc Denis Ranc.
Après un exposé aussi profondément imprégné d'optimisme, je crois qu'une parole d'industriel ayant un peu d'expérience essaiera de ramener le balancier vers le centre. Mais je crois que c'est Montaigne qui disait déjà le beau métier que d'inquiéter, donc là nous avons eu un bel exercice. On revoit aujourd'hui avec satisfaction l'industrie remise au centre du débat. C'est une bonne chose, je crois qu'elle le mérite, même si, bien entendu, elle n'est pas à l'abri de critiques. L'industrie a reconquis le droit de cité, sans doute en commençant par les PME, PMI, plus sympathiques aux politiques, parce que plus nombreuses, plus évocatrices au plan électoral et plus proches du terrain de nos amis politiques. Ce droit de cité fait suite à des années, peut-être deux décennies à peu près, peut-être presque trois, dans lesquelles on nous a bassinés avec des concepts stupides du genre société post-industrielle, dérivant vers des services à valeur ajoutée. Alors je m'interroge, y a-t-il des services qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui néanmoins survivent ? Et ceci a pris fin dans le discours public en grande partie, même si la réalité n'est pas toujours là. Alors, Michel l'a dit en introduction, l'industrie représente quand même encore 80% des exportations, 90% de la recherche privée, hors recherche publique. Donc c'est une contribution très importante à notre économie. Néanmoins, il est exact que dans 30 ans, la part de l'industrie, stricto sensu, dans la production nationale brute, a décru de 25% en 1980 à 14% en 2010. Mais il faut nuancer ce chiffre de deux ou trois remarques. La première, c'est que c'est une évolution en valeur. Si on la faisait en volume, tout à coup, la baisse est divisée par 4. Le ratio n'est plus de 25 à 14, mais descend simplement de 20 à 17. Pourquoi ? Parce que l'industrie, au contraire des services qui font le reste de la production nationale, a connu une beaucoup plus importante évolution de compétitivité. Et si le prix des machines à laver ou des voitures a baissé au cours de récentes années, le profit en est bien sûr pour le consommateur, mais l'auteur, celui qui l'a permis, c'est bien l'industriel et ses ingénieurs. Donc attention à ne pas confondre les choses. Et ce n'est d'ailleurs même pas parce que cette contribution a baissé, même de façon plus modeste, qu'il faut s'en désintéresser. La deuxième remarque, c'est que l'industrie, à tort ou à raison, mais a externalisé un certain nombre de choses. Quand j'ai commencé chez Thomson CSF, le gars qui tondait la pelouse et qui faisait cuire les aliments à la cantine était un personnel de la maison. Quand j'en suis parti, c'était un personnel de Sodexo ou de chez Paki. Donc une masse importante d'emplois a été transférée de ce qu'on appelait avant l'industrie vers les services. Quand on corrige ce deuxième facteur, la baisse est encore plus faible. Et à la limite, y aurait-il une baisse que ça mérite qu'on s'y intéresse quand même. Donc je voulais remettre ça en perspective. Deuxièmement, même si le poids relatif de l'industrie s'est réduit, l'industrie reste indispensable pour préparer les grands défis que notre société a pour demain. C'est dans la science et donc dans l'industrie que l'on trouvera les remèdes au réchauffement climatique, aux problèmes de transport, aux problèmes de santé, aux problèmes de vieillissement, aux problèmes de dépendance, etc. Donc je crois que la valeur de l'industrie dépasse très largement sa valeur numérique dans le PIB. Elle constitue, à mon sens, une contribution très importante et pas toujours assez soulignée. On parle beaucoup trop de la science qui tue, l'industrie qui pollue. On ne parle pas assez de la science qui soigne et de l'industrie qui apporte du bien-être. Bon, ce discours commence à revenir. Je crois que l'existence même d'un discours n'est pas inutile. On le verra tout à l'heure. Il n'en demeure pas moins que l'industrie est confrontée à des défis importants et que les pouvoirs publics qui cherchent à s'en occuper sont soumis à de grandes difficultés. Alors, j'ai eu la chance, dans le bouquin très attractif que vous pourrez vous procurer à la sortie, j'ai eu la chance que Thierry Veil me demande d'écrire la conclusion, et j'ai écrit cette conclusion avec aussi la chance que, quand je l'ai décrite, normalement une conclusion s'écrit avant même que tout ait écrit avant. Là, j'avais pu lire à peu près la moitié de la contribution des auteurs, donc ça m'a permis d'essayer de la faire un peu en lien avec ce qu'il y a dans le bouquin avant. Et je trouve tout à fait formidable, pour ma part, qu'un bouquin sorte là-dessus. Ça va nous sortir des idées moroses que l'on entend en général sur l'industrie. C'est plaisant, c'est écrit pour un public d'adolescents, de jeunes adultes, voire d'adultes un peu plus grands, on est tous plus ou moins jeunes d'ailleurs, et je trouve ça très bien, il y a plein de photos, il y a plein d'articles, plein de témoignages, c'est très vivant, et ça va donner l'impression réelle que dans notre pays, l'industrie, c'est aussi la vie, tout simplement. C'est la vie, c'est l'existence de millions de nos compatriotes. Les défis sont précisément bien développés dans ce bouquin, dans ce MOOC, j'ai appris le terme moi aussi, à travers les mots-clés des différents chapitres. La mondialisation, la transformation de l'industrie, l'innovation et la mise en réseau. Bon, je ne veux pas développer chacun des thèmes, mais je vais donner deux, trois idées par thème. La mondialisation, d'abord, ce n'est pas nouveau. La mondialisation, ça fait quand même environ 50 ans. La première mondialisation qu'on a connue, enfin la première ouverture qu'on a connue, c'est quand même bien le grand marché européen. Et ce n'était pas gagné d'avance. Après tout, tout à l'heure, on l'a rappelé, c'était pas une avance que la France survivrait avec son industrie à cette évolution. Et encore récemment, à chaque grand élargissement, notamment vers les pays du Sud et vers les pays de l'Est, on a eu la crainte que notre pays soit durement frappé par une compétition avec des salaires plus bas, des gens qui n'avaient pas les mêmes contraintes sociales. Je constate qu'aujourd'hui, on n'en parle plus, mais plus du tout, et que cette mondialisation-là, cette première étape, a été parfaitement absorbée. Et elle a été, au contraire, reconnue comme une chance pour nos industries. Alors c'est vrai que plus angoissante nous paraît aujourd'hui la deuxième mondialisation, celle à l'échelle des continents, et notamment des continents asiatiques, parce que elle se différencie sans doute de la précédente par peut-être trois grands facteurs. Le premier, c'est qu'on parle de population, donc de marchés absolument gigantesques, marchés qui ne sont pas toujours aussi ouverts que notre Europe est restée elle-même, j'allais dire de façon congénitale, dans ses bylaws fondamentaux, ouverte aux autres continents. La deuxième, on l'a dit, c'est qu'elle a des très faibles coûts de main-d'œuvre et que ces faibles coûts de main-d'œuvre ne sont plus compensés par des faibles qualifications. La qualité des ingénieurs, des scientifiques chinois et indiens rattrape et même a atteint, pour les meilleurs, les nôtres. Et la troisième caractéristique, qui me paraît d'ailleurs différente du rush coréen et japonais, c'est qu'au contraire des Japonais qui avaient, si je puis dire, le rôle d'épouvantail que l'on donne à la Chine aujourd'hui dans les années 80-90, les Japonais se sont développés sans faire beaucoup d'acquisitions. Ils ont implanté des usines en notre Europe sans faire d'acquisitions. Ce qui fait peur aux Chinois, c'est que non seulement ils sont compétitifs, non seulement ils envahissent nos marchés par leurs produits, mais en plus ils achètent nos boîtes. Ce qui fait très peur, ce qui est un modèle un petit peu nouveau, permis par le gigantisme de leur marché interne. Et puis par leur, faut bien le dire, par leur esprit d'initiative. Donc on voit bien sûr que les coups de boutoir de cette mondialisation-là, cette deuxième tranche, est tout à fait inquiétante et a donné d'ailleurs, expliqué une partie de la baisse que j'indiquais tout à l'heure. Cela dit, bon, il y a deux éléments qui me rendent optimiste par rapport à ça. Le premier, c'est l'Allemagne, précisément. À nos portes, un pays pas tellement différent du nôtre, quand même, j'arrive par rapport aux Chinois, qui a à peu près les mêmes racines que le nôtre, malgré tout, dont la culture industrielle, certes, est différente, qui n'a pas vécu le 19e siècle et le début du 20e comme nous, mais quand même, qui est plus proche de nous que les tenants de Confucius ou de Bouddha. Et ce pays réussit avec des recettes que l'on sait parfaitement repérer, décrire, et d'ailleurs, M. Diribard nous l'a dit à l'instant. Donc c'est quand même plutôt rassurant. Et la deuxième observation, c'est que dans notre propre pays, c'était aussi la conclusion de Diribard, malgré tout, nos entreprises ont quand même su, pour beaucoup d'entre elles, tirer leur épingle du jeu. Comment elles l'ont fait? Eh bien, elles l'ont fait à travers ce qui est décrit dans les deux chapitres suivants de ce MOOC, c'est-à-dire leur transformation et l'innovation. Bon, leur transformation, j'irai très vite, les entreprises les plus agiles ont évolué, passant de commodité à un esprit de service, passant d'équipement à la fourniture de systèmes, recherchant tel ou tel avantage compétitif. Je crois que l'exemple sont légion. Il est vrai qu'on trouve plus d'exemples de cette transformation dans les grands groupes que dans les plus petites entreprises. C'est peut-être un point d'inquiétude. Et j'avoue aussi que je connais mieux par nature les grands groupes que les PME, même si j'ai démarré ma carrière à leur contact. Le deuxième facteur, c'est l'innovation. Par rapport à ça, je voudrais dire que ce développement de l'innovation, pour moi, est la condition sine qua non, bien sûr, de la survie de notre système productif européen. Et j'y vois, moi, pour ma part, des raisons d'espérer. Parce que, à la différence de ce qui se passait il y a 5 ans, je trouve, que ce soit sous ma casquette de président de la NRT, ou celle de l'industrie, ou de président de l'école des mines de Paris, Mines Paris Tech, je trouve que la relation recherche publique-recherche privée a considérablement changé au cours des dernières années. Mais c'est considérable, c'est a sea state change, diraient les Britanniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se parle, et c'est le résultat de très nombreuses choses. Ça remonte probablement à quelques années, que ce soit les bourses chiffres qui remontent à 15 ans et qui marchent régulièrement, que ce soit les pôles de compétitivité, que ce soit les nombreuses opérations conjointes de recherche-développement, que ce soit les instituts Carnot. Enfin, il y a plein de mesures qui, chacune, a ses avantages et inconvénients, mais qui amènent aujourd'hui, à mon avis, beaucoup plus que par le passé, à se connaître, à se parler. Des grandes entreprises qui se caractérisaient, ne serait-ce que celles où j'ai vécu longtemps, Thalès, qui se caractérisaient par une recherche très repliée sur elle-même, où on était plus malin que les autres, débouchent aujourd'hui sur des coopérations tout à fait profondes. Thalès a un laboratoire commun avec le CNRS, et ça se passe très bien, les gens se parlent parfaitement, etc. Donc moi j'y trouve une vraie raison d'espérer, parce que notre pays est caractérisé sans doute par une recherche fondamentale relativement pointue, mais dont le débouché vers la vie réelle, vers la vie industrielle, était pour le moins problématique. Les problèmes sont loin d'être résolus, mais je vois là un véritable changement d'état d'esprit et de pratique. Des deux côtés, les industries eux-mêmes ont cessé de snober les laboratoires publics, considérant qu'ils trouveraient là des choses, sans doute qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels et financiers de tout faire eux-mêmes. Un mot enfin sur les compétences. Je sais bien que l'industrie française s'est faite sur les ingénieurs et les managers, moi j'en ai pas honte. Je crois que l'ingénieur français à la culture scientifique relativement large, à la formation humaine plus poussée que le PhD américain, et relativement bien adaptée à nos défis. Je crois que, très sincèrement, et pour être très très court, les scientifiques, sur chaque raie fine du spectre scientifique, les ingénieurs ou les scientifiques chinois, coréens, indiens, sont ou seront rapidement aussi bons que les nôtres. Là où nous pouvons sans doute, vieilles civilisations occidentales, continuer à faire la différence, c'est à la frontière de ces différentes disciplines. Il faut donc des gens formés à davantage d'interdisciplinarité, davantage de compréhension des autres, etc. Je crois que l'ingénieur français y répond assez bien, à deux conditions sans doute. La première, c'est qu'il soit davantage que par le passé incité à poursuivre, pour certains d'entre eux, un tiers, un quart, ça se discute, à poursuivre leur formation par une vraie formation à la recherche et par la recherche. On n'a pas assez d'ingénieurs docteurs et il faut y travailler. Pas tout le monde, bien entendu, mais une proportion suffisante pour répondre aux besoins d'innovation des entreprises. Et la deuxième, c'est de favoriser sans doute les parcours plus transversaux, combinant formation scientifique et biologique, formation management et technique, etc. Mais sous ces deux conditions d'ouverture, au fond, je trouve que nos formations répondent à peu près aux besoins. De même que nos industries devront évoluer probablement de la monoculture équipementière à la diversité du systémier ou du service qui cherche à intégrer plusieurs technologies dans un seul produit, un seul système. Je terminerai en disant un mot de politique industrielle. Le mot était un gros mot il n'y a pas si longtemps, effectivement. Il reste difficile à définir. Au risque de choquer les ministres d'industrie successifs qui se sont développés, moi je dirais que le premier rôle de l'État en matière industrielle, c'est ce qu'on apprend aux jeunes médecins depuis Hippocrate, c'est « primum non nocere ». D'abord, ne pas nuire. Il est important que l'État, qui a un tas d'interactions avec l'industrie, qui prend un tas de décisions dans des domaines tout à fait respectables, que ce soit la sécurité, l'environnement, le social, etc., les normes, il est important qu'il soit conscient que le plus important est d'abord de ne pas nuire. Or, le discours catastrophiste sur l'industrie, ou benign neglect sur l'industrie qu'on avait pendant des années, a fait qu'un ministre de l'Environnement ou un ministre des Affaires sociales considérait de toute façon que l'industrie était fichue, qu'on ne pouvait pas prendre les décisions qu'on voulait. Je crois qu'un des bons côtés au discours politique pro-industriel que l'on voit aujourd'hui, même si ça devait s'arrêter là, j'espère que les actes suivront les paroles, mais même si c'est des paroles, c'est que ça fait pénétrer quand même auprès des décideurs publics le fait que l'industrie, ça existe, c'est relativement fragile et c'est important. Donc pour moi, un discours pro-industriel en lui-même a une vertu pédagogique et un ministre de l'Industrie ne doit pas avoir honte à être simplement un chantre de l'industrie. Et j'ai dit à Éric Besson récemment, le gardien de but pour éviter au moins que l'équipe franque ne marque des buts contre son camp. Deuxième remarque pour la politique industrielle, c'est que depuis Pompidou et De Gaulle, l'État et le monde ont bien changé. Et quand on regarde ces grands succès industriels qui nous sont légués depuis cette époque, qu'il s'agisse des télécoms, de la défense, d'Airbus, d'Ariane, des TGV, du nucléaire, force est de constater que, à l'exception de l'un d'entre eux, tous sont liés à des politiques d'État acheteurs. C'est une politique d'acheteurs avisés qui a fait qu'on a eu une politique nucléaire, une politique des chemins de fer, etc. La seule exception, vous l'avez deviné, c'est Airbus. Au fait qu'Air France a acheté, mais s'il y avait eu qu'Air France, ça n'aurait pas suffi. Donc loin de là. Donc au moment où Airbus s'est créé, donc c'est plutôt l'État actionnaire.
En plus d'Air France, il y avait l'État.
Ouais. Voilà, c'est plutôt dans le cas d'Airbus, l'État actionnaire qui n'a pas trop regardé les dépenses de l'aérospatiale à l'époque, j'imagine, pour lancer ça, et puis l'Europe. Mais dans le reste, l'État client a joué un très grand rôle. Or, l'État aujourd'hui n'achète plus rien. En dehors de l'exemple très singulier de la défense, où il est encore un très gros acheteur, l'État n'investit plus, n'achète plus. Donc tout ce levier, qui était à mon avis le premier levier de la politique industrielle, notamment en France, pays jacobin organisé, a totalement disparu. Et quand les discours publics rappellent un peu vite le bon vieux temps, il faut bien se garder de les assimiler parce que ce temps-là ne reviendra plus, sauf à changer complètement. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire à l'État en dehors du non nocere? Il reste à soutenir l'innovation, à l'encourager. Non pas que l'État ait besoin de subsidier les entreprises, mais qu'il y a pas mal de choses à faire pour encourager l'industrie à voir à long terme, pour encourager l'industrie à se rapprocher des secteurs publics de recherche, pour encourager l'industrie à se rapprocher de l'industrie en matière de recherche, et là, c'est une idée que Jean-François Delecq reprendra peut-être dans les comités de filières, on s'intéresse aux filières industrielles, que faire dans les filières, pourquoi pas innover en filière, c'est-à-dire encourager les plus grands à innover que les plus petits, plutôt que d'aller chercher leurs composants à l'autre bout du monde. Et là, les pouvoirs publics peuvent avoir un rôle pour faire basculer la décision du bon côté en termes de localisation, en termes de partenariat. Dernier point, je crois que les pouvoirs publics ont un rôle, et devraient en avoir un, c'est le plus difficile, pour reconstruire un consensus social autour de l'industrie. Si l'Allemagne a pu évoluer, c'est parce qu'elle a su trouver ce consensus. Là encore, je trouve que la Conférence nationale de l'industrie, que préside Jean-François, qui a le mérite de réunir à la fois entreprises, pouvoirs publics et syndicats de salariés, me paraît un bon socle pour revenir à ces questions, essayer de retrouver un dialogue social dans lequel l'intérêt du salarié et l'intérêt de l'entreprise reconvergent dans le sens d'une industrie durable et prospère. Merci.